Ouais, salut Daniel. Magali et Gilles de Quintin, près de Saint-Brieuc, en Bretagne. À la rentrée, pas de temps mort chez Mermet. Nous tenons, Magali et moi, une boutique de commerce équitable. Et aujourd'hui, tu me l'as rendu grognon pour toute la soirée. Pourquoi vous parlez toujours de Max Avelin? Pourquoi donner une énième fois la parole à Alter Eco? Et moi, si je te disais que mes fournisseurs sont des gens qui ne travaillent pas avec la grande distribution, qu'un pan entier du commerce équitable qui n'a rien perdu de son côté alternatif du départ est représenté par des associations telles que Minga. Donnez-leur au moins une fois la parole. Des fournisseurs tels que Forest People qui font des produits de soins du corps avec des produits naturels et une déontologie sociale et écologique admirable, tant et bien d'autres, genre Artisanat Sel et compagnie. Parce que c'est trop facile d'amalgamer tout le monde. Nous, on t'invite à rencontrer tous ces gens-là, des vrais acteurs du commerce équitable, et à leur donner enfin la parole. Salut, merci.
Il y a des localisations dans l'air sur la côte Vermeille, à Cerbère et Bagnouls dans les Pyrénées-Orientales. Je suis aide-soignante à Perfit, centre de rééducation fonctionnelle. Je côtoie tous les jours des personnes dont la vie a basculé dans le handicap partiel ou total suite à un accident et qui retrouvent au bord de la mer, dans des criques aménagées pour accès au fauteuil, un réconfort, un bien-être, un équilibre et tous les bienfaits que ce cadre leur procure. Ces mêmes personnes qui passent le reste de l'année dans des centres bétonnés sont menacés d'être très bientôt privés d'horizon. Ils vont vivre désormais leur séjour dans un pool santé tout neuf. Pourquoi délocalise-t-on? On n'en sait rien. Le centre ne désemplit pas. Nos compétences sont reconnues nationalement. Nous sommes classés 8e au niveau national. Pourquoi délocaliser un établissement fonctionnel refait à neuf grâce à des investissements coûteux? L'argument économique n'est pas fondé. Tout le monde s'oppose à la délocalisation. Les patients, le personnel, les élus locaux, les élus régionaux, en vain. Indépendamment de l'intérêt des malades, toute la vie économique d'un canton est touchée à travers les écoles, les commerces, la vie locale. Nous avons besoin de votre soutien et nous vous invitons à vous mobiliser pour cette manifestation ce lundi 10 septembre à 14h place Catalogne à Perpignan. Si vous pensez comme nous que la vocation des soins médicaux ne devrait pas être d'enrichir les différents secteurs d'industrie, mais améliorer le bien-être et la prise en considération des patients, alors venez nombreux et merci de votre soutien.
Bonjour Monsieur Mermet, je suis en train d'écouter votre émission du mercredi où on parle des Russes qui sont descendus à 4000 mètres pour déposer je ne sais plus trop quoi. Eh bien écoutez, je suis ravie de voir que les progrès techniques sont vraiment là. C'est dommage que quand les gens du Kursk qui étaient à 120 mètres de fond, on n'ait pas eu cette possibilité. C'est vraiment dommage. Au revoir Monsieur Mermet.
Félicitations, excellent, excellente émission. Voilà, des émissions comme, moi personnellement, comme j'aime entendre. Éducatives, instructives, voilà, rien à dire. Un boulot de journaliste normal, voilà, et pas de prosélytisme. Alors j'espère que ça peut se passer comme ça pour qu'on puisse encore apprécier vous écouter. Voilà, merci, à bientôt David Propriano. Ciao.
Et alors voilà les compliments qui sont bons à entendre. Merci David, suite à l'émission d'hier avec l'équipe du Monde Diplomatique. Aujourd'hui on va à Amiens, au cours de l'été à Amiens, peut-être que vous, ces informations vous sont parvenues, le 9 août à 7h du matin, suite à une intervention de la police dans le quartier nord d'Amiens. Vous vous souvenez peut-être cette histoire terrible, ce père qui fuit sur la pression de la police qui essaye d'entrer dans son appartement et son fiston de 12 ans, Yvan, qui suit son père et qui se jette du haut de par la fenêtre et qui tombe dans le coma. Il est sorti du coma aujourd'hui et vous avez évidemment entendu parler de cette histoire qui est devenue symbolique de cette traque au sans-papier qui s'est accentué dans l'été et qui est une politique et dont les applications, d'abord la politique et puis les applications de cette politique sont de plus en plus critiquées et notamment rencontrent la résistance d'une organisation comme le réseau Éducation sans frontières, mais pas seulement. Alors avec François Ruffin, on a voulu revenir sur cette histoire et c'est notre sujet du jour. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 39 39.
Amélie Dupé. Il était une fois quatre personnes qui s'appelaient tout le monde, quelqu'un, chacun et personne.
Il y avait un travail important à faire. On a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait.
Chacun aurait pu le faire, mais finalement, c'est personne qui le fit. Chacun se fâche, car c'est le travail de tout le monde. Tout le monde pense que chacun peut le faire.
En fin de compte, tout le monde fit des reproches à quelqu'un, parce que personne avait fait ce que chacun aurait pu faire.
Salut Daniel, c'est Jacques en Lozère. Je t'appelle parce que d'abord je suis bien content de te retrouver en cette nouvelle année. Un peu de lumière dans ce monde obscur va me faire du bien. Je t'appelle aussi parce que grâce à tes émissions entre autres et à mes recherches, à mes pérégrinations, j'ai fini cet été par découvrir un mouvement dont tout le monde semble tout ignorer autour de moi. Il s'appelle le situationnisme. Réfléchissez, est-ce que vous connaissez ça, le situationnisme ? Guy Debord, certaines personnes en ont entendu parler, entendu, tout juste. Raoul Van Egem, sûrement pas, la plupart du temps. Et bien pourtant, nous avons ici les théoriciens, des gens qui ont beaucoup réfléchi à l'état de notre société dite de spectacle, et qui ne sont pas étrangers à ce fameux mai 68 dont on ne veut plus entendre parler Nicolas Sarkozy. Et pour cause, ces gens-là vous invitent à découvrir votre liberté hors de la consommation et des produits. Je vous invite donc moi tous à découvrir ces deux auteurs extraordinaires, surtout que Raoul Van Egem n'est pas mort. Découvrons les vivants. Il y a beaucoup de liberté à gagner. Et en ces temps de rentrée, je vous incite à lire l'avertissement aux lycéens, qui est excellent, et aux écoliers, bien sûr, vous découvrirez peut-être, ou vous vous rendrez compte que vous saviez depuis longtemps que malheureusement, l'école n'est pas forcément une machine à créer de la liberté. Merci à tous, bonne continuation et à bientôt.
Bonjour, j'appelle pour informer les auditeurs qu'on fait donc, comme chaque mois, une réunion repère là-bas si j'y suis, modeste et géniale, jeudi 6, le premier jeudi de chaque mois, à Auray, au Billabong Café, dans le Morbihan. Et cette fois-ci, on va recevoir des représentants des différents collectifs antilibéraux et parler de tout ça. Voilà, venez nombreux, j'espère à jeudi à 21h. Merci, salut.
Bonjour, Café Repère de Grenoble réouvre ses portes jeudi 6 à 18h30. Pierre vous accueillera dans le petit restaurant La Bonheur, 65 avenue Alsace-Lorraine. J'espère que ce sera nombreux. À bientôt, à demain soir. Au revoir.
Vous êtes nu, vous ne savez pas que vous êtes nu. Hein, voyez-vous ? Donc vous perdez le bras, vous ne savez pas que vous l'avez perdu. C'est une peur qu'on ne peut pas décrire.
Il y a un des policiers qui m'avait dit qu'il y a 15 ans qu'il est dans la police. C'était pour la première fois qu'il voyait une scène pareille. Et il m'a même dit qu'il était contre cette opération.
La France ne peut pas accueillir tous les gens qui veulent venir sur son territoire. C'est vrai d'ailleurs de tous les autres pays européens. J'ai rencontré M. Zapatero juste avant les vacances, qui avait régularisé des centaines de milliers de clandestins et qui le regrette aujourd'hui amèrement et qui en tout cas s'est engagé à ne plus le refaire. Parce que nos économies, nos systèmes sociaux, nos systèmes culturels ne peuvent pas supporter un apport non contrôlé de populations étrangères.
Mais ça c'est nouveau. Ça se passait pas comme ça il y a encore un an ou deux ans.
Jamais, non, mais ça se passait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que les gens étaient informés, ils étaient invités à quitter le territoire. Aujourd'hui, on les coince.
Salut, c'est Daniel Mermet là-bas, si j'y suis, avec François Ruffin. Yvan ou la traque au sans-papiers.
Flight number 2, arriving from...
Oui, alors c'est par rapport à Yvan et Abdelaziz. Yvan, c'est l'enfant tchétchène poursuivi par la police qui est tombé du quatrième étage au mois d'août, ici rue Maurice Ravel.
Oui.
Et il est gravement blessé, il est toujours à l'hôpital. On se demande si un jour il fera une rentrée scolaire d'ailleurs. C'est vraiment un gros souci pour ses parents et aussi pour nous-mêmes du réseau éducation sans frontières. Puis aussi une pensée par rapport à Abdelaziz qui lui, qui est un peu plus âgé, il a 18 ans et quelques jours. Cet enfant vient du Darfour et le préfet a réussi à le coincer.
et à l'expulser. Donc on est scandalisé, sa chaise est vide, et donc on l'a symbolisé par cette chaise vide ici. Le fait que c'est en France, on ne pourra pas faire leur entrée. Donc voilà, en tout cas pour vos enfants, bonne rentrée. Et puis tout à l'heure, peut-être si vous avez envie de signer la pétition par rapport au Demski, n'hésitez pas, en fait. Hein. Bon, voilà. Ah, si vous voulez, oui, bien sûr. Hein.
Bah, je vous remercie. Par contre, j'ai juste un stylo, parce que je ne suis pas équipé.
Bon.
Non, non, je ne suis pas signée.
Non. Mais le cœur, il y est, hein, j'en suis sûr, hein, pour votre enfant.
Enfin, elle veut la signer aussi.
Oui. Bon, ben, il y a bien du monde à l'école. Hein. C'est beau. Oui. Je suis un peu plus inquiet parce que je ne vois pas la famille Maroyan.
Tu sauves pas, toi.
Alors, on pense aussi à une famille qui est là, hein, c'est la famille Maroyan. Hein, le papa est gravement atteint aussi parce qu'il a voulu se suicider. Le papa et la maman ont leurs enfants ici à cette école. C'est pour ça que nous sommes ici.
D'accord. Bien la chérie.
En tout cas, bonne rentrée à vos enfants et puis à vous-même. Hein.
Voilà, si, elle rentre en CP. Mia.
C'est bien ça.
Mia. Ouais. Bon, elle a failli écraser par une voiture.
Là.
Et la boîte de Kleenex sous le bras, c'est pour au cas où elle pleure en entrant.
Non, parce qu'ils demandent une boîte de mouchoirs et ils demandent à l'école primaire. Elle rentre en CP cette année.
Bonjour mesdames, nous sommes ici parce que Yvon ne fera pas sa rentrée scolaire, comment dirais-je, parce qu'il a été blessé, la police le poursuivait parce qu'on voulait le renvoyer en Tchétchénie, ainsi que Abdelaziz, comment dirais-je, qui a été lui expulsé en Italie, c'est un enfant du Darfour. Donc voilà, on l'explique ainsi, hein. Mais je vous laisse rentrer avec vos enfants.
Bien, ouais. Merci.
Voilà.
Darfour, Tchétchénie, enfants, police... Poursuite, on est en France, en 2007, en cet été 2007, cette fin d'été, et ce qui est évoqué là, s'est passé au début du mois d'août. Une chaise vide, il faudra leur expliquer aux enfants dans cette école d'Amiens, pourquoi la chaise est vide, pourquoi Yvan s'est jeté par la fenêtre ce 9 août 2007 à la suite de son père. Et il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Il est devenu, lui qui a failli mourir, il sort à peine du coma ces jours derniers, il est devenu le symbole de cette traque au sans-papier, de cette traque à l'enfant et de la façon dont on traite aujourd'hui les demandes d'asile dans notre pays, qui était le pays du droit d'asile avec toute la fierté que nous en tirions tous. Aujourd'hui, selon le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Michel Tubiana, nous sommes dans une situation de xénophobie d'État. Mais dans le reportage que Florence Aubona a fait à Amiens, elle note quelque chose. Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'aller chercher un nounours sous le lit quand on interpelle des familles qui parlent ainsi? Eh ben, c'est un policier, un gradé, qui donne son sentiment avec l'impression qu'il va fondre en larmes. Il continue... On a l'habitude de missions claires avec des délinquants. Maintenant, on nous demande d'utiliser les mêmes moyens de répression, mais pour des gens qui n'ont commis qu'un délit administratif. C'est une histoire que nous connaissons, qui revient et qui revient, sauf que dans ce pays où il semblerait qu'il n'y a absolument aucune opposition face à l'actuel pouvoir, eh bien, il y en a des oppositions. Il suffit d'aller là, par exemple, à Amiens, d'être à l'entrée de cette école avec cet enseignant qui fait partie du réseau d'éducation sans frontières, ce réseau qui, depuis 3 ans maintenant, eh bien, s'oppose à ces procédés. Et c'est des choses qui nous regardent tous. C'est des choses qui se font en notre nom. C'est en notre nom, française, français, que ces choses-là se font. Le gouvernement manipule la peur et s'appuie sur ce qu'une partie de l'électorat peut éprouver de plus moche, c'est-à-dire la xénophobie. Sauf que cette xénophobie est devenue une xénophobie d'État, en effet. La traque au sans-papiers, c'est jusqu'à 16h. Sur France Inter, là-bas, si j'y suis.
Métro Châtelet, tu es à l'ouest.
excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate. Donc contrôle, police, Roissy, Air France.
La température est de 22 degrés à bord. Wish you a very pleasant trip.
Ta gueule.
On va te la scotcher, ta gueule.
Tu vois ? Trois descendants d'un maréchal zélé appuient trop fort sur tes poumons, alors inspire et expire. Inspire, contrôle, police, expire. C'est comme ça, moi je suis complètement.
Et nous interpellerons tous ceux qui auront un comportement.
Préfecture, police, Roissy, Air France.
A very pleasant trip. L'État français et ses exécuteurs testamentaires font le nécessaire de leurs poignes de fer et...
Tu repasses à l'Est.
Ta gueule, tu vois. T'es déjà mort.
Le retour est déjà mort. Alors,
merci pour la musique. Vinia et Venit. Pinetam Gossit. Pinetam Gossit. L'État français inspire.
Wish you a very raison.
Vigna et Venit, Pinetam Gossit.
La France ne peut pas accueillir tous les gens qui veulent venir sur son territoire. C'est vrai d'ailleurs de tous les autres pays européens. J'ai rencontré M. Zapatero juste avant les vacances, qui avait régularisé des centaines de milliers de clandestins et qui le regrette aujourd'hui amèrement et qui en tout cas s'est engagé à ne plus le refaire. Parce que nos économies, nos systèmes sociaux, nos systèmes culturels ne peuvent pas supporter un apport non contrôlé de populations étrangères.
Donc il faut systématiquement accompagner tous les gens qui arrivent à la frontière.
Ceux qui sont clandestins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays.
Il y a eu une bavure là. Ce qu'on vient d'entendre, c'était François Fillon, le dimanche 26 août sur TF1, au journal de 20h, il affirme, vous l'avez entendu, que son homologue espagnol, Rodríguez Zapatero, lui a confié en juillet qu'il regrettait la régularisation de 690 000 sans-papiers en 2005. Couac. Ça a été un couac. Parce que Rodríguez Zapatero, deux jours plus tard, a déclaré que, contrairement à ce que qu'affirmait le ministre français, le premier ministre français, il ne regrette en rien cette décision, dit-il, je cite, nécessaire, commode et positive. Et il précise que son gouvernement et lui-même considèrent que, je cite, personne ne peut travailler dans l'illégalité, fin de citation. Par ailleurs, son ministre des Affaires étrangères a ajouté que cette politique a été un succès et qu'elle est aujourd'hui un modèle pour de nombreux pays. Petit extrait de la déclaration de Rodríguez Zapatero.
Le gouvernement français va émettre une mise au point sur ce qui a pu être une mauvaise interprétation, mais je le répète, ce processus de légalisation a été nécessaire, convenable et positif. Plus personne désormais ne peut travailler en Espagne dans l'illégalité.
Alors voilà. Bon, ça éclaire quand même notre reportage d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. C'est une série de pays. Je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Italie. Les Pays-Bas ont annoncé le 22 août 2007 la régularisation massive de 30 000 sans-papiers. L'Espagne, donc, on l'entend, s'est félicitée de la régularisation massive de sans-papiers en 2005, etc. On voit bien qu'à l'échelle la dimension, dans le cadre européen, eh bien, les politiques sont différentes. La régularisation est possible et qu'on en tire des avantages nombreux. Donc, il n'y a pas qu'une, c'est bien un choix politique que celui de la France, et c'est ce choix politique et cette politique s'exerce avec de plus en plus de force, et peut-on dire, au moins aux yeux d'une association comme Reporter Réseau d'éducation sans frontières, Reporter sans frontières, d'autres choses, ils ont rien à dire là-dessus. Réseau d'éducation sans frontières, avec de plus en plus de brutalité. Un effet de cette histoire, c'est donc ce qui s'est passé à Amiens, et le jour de la rentrée scolaire, cette semaine même, un professeur du petit Yvan s'exprimait à un micro de France Inter.
La chose difficile, j'avoue, c'est de reprendre la salle de classe et de voir la chaise d'Yvan vide pour l'instant. J'imagine que j'aurai la même salle de classe que l'année dernière, et ça va être un traumatisme. Oui. C'était un élève extrêmement brillant, très poli, très distingué. On a reçu également régulièrement les parents, surtout Madame Demski, une dame d'une grande classe. Donc c'était des gens parfaitement intégrés. Et d'ailleurs, nous ne savions pas qu'Yvan était un enfant sans papier, nous ne savions pas du tout. Moi, j'étais toujours effaré parce qu'il réussissait à faire des opérations mathématiques à la russe, qu'il avait appris dans son pays, et j'avoue que c'était assez bouleversant. Et donc l'annonce de cette tragédie, moi-même je l'ai appris alors que j'étais en vacances, j'ai vu la photographie d'Ivan à la télévision, et ça a été un choc qui honnêtement m'a conduit aux larmes.
Vous avez de ses nouvelles ?
Son état semble évoluer, mais quelles sont les séquelles ? On ne sait pas actuellement.
J'étais là le matin du 9 août, vers 7h du matin, on dormait, hein. Et donc on a attendu les policiers frapper pendant une dizaine de minutes, et puis on s'est mis debout, on s'est dit, enfin, on va aller voir.
Voilà, c'est Claudette. Claudette est d'origine rwandaise, et c'est une voisine de la famille Demski. La famille Demski, c'est Andrei et Natalia et Yvan. Andrei, il est d'origine ukrainienne. Il a, pour des raisons compliquées, il n'a pas pris la nationalité russe à la disparition de l'URSS. Et Natalia, elle est d'origine tchétchène. Alors c'est une histoire compliquée qui est la leur, entre les parents de Natalia et Andrei. Le mariage a été en tous les cas impossible. En tous les cas, ils ont un enfant de 12 ans qui s'appelle Yvan, et ils sont arrivés il y a 3 ans dans ce quartier nord d'Amiens, vivant sans problème, évidemment sans pouvoir travailler, puisque vous le savez, les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas accéder au travail chez nous, c'est ainsi. Toujours est-il que le jeudi 9 août à 7h du matin, il y a une intervention de la police dans ce quartier, aux 2 rue Maurice Ravel, appartement 160 chez les Demski. 5 policiers sont là selon la police, une quinzaine d'après les habitants et les voisins, et la police cogne, frappe. On va chercher un serrurier, et puis le père finit par s'échapper par le balcon. Il descend au 3e étage et il saute jusqu'au sol de la cour. Mais Yvan, le garçon, 12 ans, lui saute du 4e étage, et il est évidemment gravement blessé. Il est conduit à l'hôpital et il est dans le coma. Voilà le témoignage de la voisine, donc Claudette.
Donc on est sorti par là avec des policiers. Bonjour, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, rien de grave, rentrez chez vous et fermez la porte.
Il y avait beaucoup de policiers là?
Ah oui, il y en avait beaucoup sur le palier, sur les escaliers, dans les... Oui, il y en avait une dizaine, une quinzaine, oui. Et puis, ils ont tenté, en fait, de casser la porte, hein. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'en fait, c'est des portes assez blindées. Et donc, à un moment, ils se sont arrêtés. Et j'ai attendu, moi, une policière qui disait, est-ce que vous pouvez faire appel à un serrurier? On s'est dit, bon là, ça va un peu trop fort. On était toujours en pyjama, on s'est dit. Moi, j'avoue que j'avais très peur.
Vous les connaissiez, la famille Dembski?
Oh, bah, bien sûr, c'est mes voisins, c'est mes bons voisins en plus. Donc, je les connaissais bien, je connaissais bien la Natalia. Elle travaillait avec moi dans un atelier de femmes étrangères dans mon association Vie Brisée. Elle animait bien l'atelier de comment ça s'appelle?
De maquillage.
Elle animait l'atelier de maquillage.
Elle, oui. Elle sait bien faire là. Les vernis et tout ça. Et toutes les femmes étaient contentes de la voir avec ces compétences-là. Quand le série est arrivé, il a commencé à casser la porte avec les machines. Moi, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer, j'allais dans tous les sens, et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et il a commencé à casser la serrure. Vous imaginez la serrure pour la casser. Enfin, ça faisait un bruit terrible.
Et vous hésitiez à intervenir, à aller voir les policiers, à leur dire c'est pas normal ou pas?
J'ai hésité longtemps de leur dire, qu'est-ce que vous faites là, mais pourquoi vous faites ça? Mais en même temps, je me suis dit, c'est des policiers. Vous savez, il y a des histoires qui se passent aujourd'hui avec des policiers. Je me suis dit, peut-être que je savais pas quoi faire.
C'est-à-dire, vous vous êtes dit, je suis noire, je suis d'origine étrangère, je vais avoir des problèmes si je vais discuter avec eux.
Vous croyez, on y pense tout le temps. Et ils peuvent dire, j'y vais, je sors comme ça. La dame nous a agressés. Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, à un moment, je n'ai pas hésité quand même à aller le dire, tirer même un des policiers pour dire arrêtez, ça va quoi.
Vous êtes sorti finalement et vous leur avez dit.
Je suis sorti, j'ai dit arrêtez. J'étais dans tous mes états, mais j'ai couru trop vite, j'ai ouvert la porte, j'ai laissé la porte ouverte, j'ai dit arrêtez, j'ai crié à tout le monde, j'ai même tiré le serrurier qui faisait, mais il faut arrêter, les policiers ne savaient plus quoi faire en même temps, parce qu'ils me disaient, mais madame, qu'est-ce qui se passe, calmez-vous, je vais pas me calmer, je me calme pas, arrêtez, mais bon, ils ont arrêté quand c'était fini, quoi. Et là, je suis venue voir, c'était fini, exactement. Ivan était en bas, avec, non bougeait plus, donc son père qui essayait de voir s'il respirait toujours et tout, quoi.
Quand j'ai regardé sur la fenêtre, j'ai vu Ivan s'allonger par terre avec du sang. Et j'ai vu Andrei qui allait vers Ivan. Ah, j'ai compris que c'était trop tard. C'est par là que j'ai vu Natalia qui avait aussi l'air de vouloir se jeter. Donc j'ai crié, Natalia, ne saute pas. Natalia, ne saute pas. Natalia, ne saute pas. Natalia, il ne faut pas faire cette bêtise-là. Ne saute pas. C'est par là, Natalia s'était calmée. Et il me montrait en bas Ivan qui était allongé.
Comment ont réagi les policiers? Comment est-ce...
Ah, mais tout le monde était en extase. Hein? Que ce soit nous, on était emportés par l'émotion. Que ce soit l'agent de la police qui était en civil, qui avait regardé comment Ivan était allongé par terre et les sang qui coulait. Et nous tous, hein, même les policiers qui faisaient l'opération, nous tous nous avons tremblé. Hein? Nous tous, en regardant la scène... Même les policiers, même nous, tout le monde commençait à pleurer. Même les policiers n'étaient pris dans leur peau en regardant ce qui était arrivé. Bon, il y en a qui commençaient aussi à dire, oh, nous on était contre cette opération.
Moi je continuais à crier, en fait, là, à ce moment-là, j'étais en colère. J'ai dit, mais merde, vous venez de tuer un enfant pour une histoire de papier, mais ça va pas, je ne sais même pas ce que je disais.
J'ai regardé derrière mon dos, je me suis retrouvé avec un monsieur, mais je ne savais pas s'il était de la police parce qu'il était en tenue civile. Il est entré dans mon salon. Je lui ai dit que, mais ces drames, on pouvait l'éviter. On est tenté de vous dire d'arrêter cette opération. Mais vous continuez. Vous voyez maintenant ce que vous avez fait? Moi, je leur ai montré l'immeuble, tout le monde qui pleurait. J'ai dit, vous voyez ce que vous avez fait à l'immeuble? L'immeuble qui était calme. Regarde, maintenant, tout le monde est tenté de pleurer. Ah, ils étaient gênés aussi, touchés. Il y a un des policiers qui m'avait dit qu'il y a 15 ans qu'il est dans la police. C'était pour la première fois qu'il voyait une scène pareille. Et il m'a même dit qu'il était contre cette opération.
Normalement, on devrait déjà avoir trois téléphones. Donc, pour l'instant, la civilisation.
Alors, à l'évidence, les méthodes sont de plus en plus musclées. On est dans une politique des résultats qui doivent absolument et de chiffres qui doivent absolument être atteints. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et effectivement, il y a plusieurs témoignages qui indiquent le ras-le-bol des policiers eux-mêmes. Là, on va à la CIMADE et on rencontre un responsable des questions de droit d'asile à la CIMADE Île-de-France.
Alors, en quelques mois sur la ville d'Amiens, il y a eu d'abord un jeune qui venait du Darfour qui a été expulsé de France. Il y a eu ensuite une personne qui a été interpellée, qui a fait une tentative de suicide dans un commissariat, qui a été emmenée à l'hôpital, sortie de l'hôpital par les policiers, emmenée dans l'avion où les plaies se sont rouvertes, donc il a été conservé en France. Il y a eu le cas de Ivan Demski qui a été amené a sauté du quatrième étage et son père ayant sauté du troisième étage. Il y a ensuite eu le week-end dernier une nouvelle tentative de suicide chez les sans-papiers.
Tous ces événements, c'est les dégâts collatéraux de la politique migratoire de l'État français, effectivement, notamment de la politique du chiffre, des quotas d'expulsion qui sont fixés chaque année préfecture par préfecture, et donc ça les conduit effectivement à faire des interpellations dans tous les sens, à harceler les gens, à créer un climat de terreur parmi les sans-papiers, et inévitablement à ce genre de bavures entre guillemets, mais c'est des bavures qui sont à mon avis totalement assumées par l'État français, par le ministre de l'immigration. Pour lui, c'est dans la logique des choses. Et bon, il va pleurer des larmes de crocodile sur l'accident concernant le Ivan, parce que ça a été médiatisé, etc. Mais fondamentalement, ils en ont rien à faire. Il y a eu un point qui a été fait par Hortefeu, je crois au début de l'été, sur préfecture par préfecture, qui montrait que la plupart des préfectures de France étaient en retard sur leur quota d'expulsion. Donc voilà, ça les a conduits à faire n'importe quoi, enfin à utiliser les moyens les plus poussés et les plus abjects pour faire du chiffre, pour faire leur chiffre. Ouais.
Brice Hortefeu.
Sur le premier semestre 2006, il y a eu 2607 personnes contrôlées. Sur le premier semestre 2007, il y en a eu 10936. C'est une augmentation de l'ordre de 300%. Et quant aux étrangers interpellés en situation irrégulière lors de ces opérations, il y en a eu 142 au premier semestre 2006 et il y en a eu 536 au premier semestre 2007, soit une augmentation de 280% sur la même période. Et donc vous voyez qu'il y a là un effort d'abord qui a été engagé et des résultats qui commencent à devenir concrets et tangibles.
Vous voyez, quand les policiers, ils ont commencé à défoncer la porte, pour la famille, c'était le désespoir. Même moi qui n'étais pas dans l'air... maison, qui était dans la maison voisine, j'avais senti le désespoir et je savais que maintenant on allait arrêter mes voisins et on allait les expulser. Où ? À Tchétchénie. Je me mets à leur place. Alors ils ont accepté de mourir en France. Parce que les gens qui ont fui la guerre Tchétchénie, mais qui peut accepter de rentrer dans un pays en guerre ? Et personne.
C'est-à-dire que la peur que ça faisait, ce bruit-là, avec en sachant que c'est toi qu'on vient chercher, c'est comme pendant la guerre. Pendant la guerre, quand vous avez des balles au-dessus de la tête ou partout, vous n'avez plus votre tête. C'est-à-dire que vous vous jetez de 9e étage, vous jetez partout, parce que de toute façon, au lieu d'être affronté à ces balles ou à ces militaires, vaut mieux mourir par n'importe autre moyen. Je pense qu'à ce moment précis, c'est ce qui est arrivé à André et à sa famille, de dire « je préfère mourir autrement que d'être confronté à ces policiers que je vois là-devant ». Parce que, enfin,
Moi, je pense que quelqu'un qui a vécu la guerre comprend très bien cette peur-là. Moi, je sais ce que c'est, cette peur-là vous êtes nus, vous ne savez pas que vous êtes nus. Hein, voyez-vous? Donc, vous perdez le bras, vous ne savez pas que vous l'avez perdu. C'est une peur qu'on ne peut pas décrire. Donc, je pense qu'à un moment, avec le bruit, avec tout, avec nous qui criaient, je pense qu'à un moment, ils avaient une peur, indescriptible, que donc, qui les ont poussés à faire ça, quoi, à sauter.
Monsieur Beau, procureur de la République.
Les policiers sont arrivés vers 7h45 du matin. Il ne s'agit pas du tout d'une opération avec bélier ou chose comme ça. Ils ont d'abord frappé à la porte. On ne leur a pas répondu. Ils ont expliqué leur qualité. Et puis, ensuite, ils ont fait appel à un serrurier. Et c'est au moment où le serrurier était en train de travailler sur la porte qu'on a entendu un cri. Et ce cri, en fait, était celui de la mère de l'enfant, du jeune homme, qui réagissait à la chute de l'enfant. Le père a entrepris, lui, de prendre la fuite en escaladant, en descendant par la façade de l'immeuble. Et le fils a voulu suivre, en quelque sorte, la démarche du père, mais a basculé de plus haut, alors que le père avait déjà descendu une partie de la façade au moins.
Jacques Vergès, avocat.
Dans cette affaire, les demandes que nous formulons sont 1. L'ouverture d'une instruction judiciaire pour savoir comment la vie de cet enfant a pu être mise en danger. Parce que lorsqu'on vient dans un appartement à 7h du matin, qu'on tambourine sur la porte, qu'on essaye de forcer la serrure, forcément, on crée la panique à l'intérieur, surtout chez un enfant. Quand je lis les déclarations du procureur de la République, malgré moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me trouble. Quand il dit « l'enfant est tombé, la police n'était pas à l'intérieur de l'appartement ». Et c'est se moquer de moi, c'est dire peut-être que c'est le père qui a jeté l'enfant par la fenêtre. Tout l'immeuble vous dira qu'il y avait un vacarme effroyable venant de l'extérieur de l'appartement. Donc cette manière de poser le problème me semble difficile à accepter. Le problème pour nous est de savoir si ces gens ont agi sur indication des autorités suprêmes de l'État ou si c'est une bavure venant de cadres subordonnés.
Donc vous, Christophe, quand vous avez appris le drame d'Ivan, oui. vous êtes rendu plutôt du côté du procureur
Voilà, tout à fait. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est tout de suite d'entrée de jeu, le procureur a précisé que la police était dans son rôle et c'était la famille qui était hors la loi. Comme la famille était dans une situation irrégulière, c'était elle qui était hors la loi. Il a tout de suite tenu à préciser les choses.
Donc d'entrée de jeu, en fait, il disait que l'affaire était classée. Puisque la police était hors de cause et que c'était finalement la famille qui était accusée. Quoi. L'affaire s'était déroulée le matin, l'après-midi, elle était déjà classée. Pour voilà.
Alors, le procureur, bizarrement, ne parlait pas d'arrestation. Si je me souviens bien ses propos, il parlait d'un contrôle de routine, nous a-t-il dit.
Je pense qu'il y a des boîtes aux lettres pour les convocations. Peut-être le matin à 7h pour réveiller les gens. Bon.
Faut vous y habituer à être réveillé à 7h le matin parce que ça va devenir la routine d'après le procureur.
Ah bah on est bien.
Vous avez des boules caisses, des tampons rires, tout ça ou...
Je pense qu'on va les acheter si c'est comme ça.
Alors l'entretien s'est terminé par les regrets du procureur et surtout par, et là je trouve ça un peu fort, il a parlé de la policière qui était chargée des opérations d'intervention sur les lieux du drame et nous a fait part du fait que ce commandant des opérations était très très choqué et que tous les agents qui avaient accompagné cette personne le matin en intervention étaient eux-mêmes choqués.
Sans un mot pour
les victimes, quand même les principales victimes, enfin c'était la famille et surtout Ivan quoi.
Peut-être là, il va falloir mettre en place une cellule d'aide psychologique au sein de la police, alors.
Oui, sûrement, oui.
C'est déjà fait. Moi, je l'ai eu dans le journal où j'étais morte de rire quand j'ai dit les policiers ont besoin des psychologues. Alors que depuis le drame, j'ai demandé une cellule psychologique pour la famille. Je suis toujours en attente. Mais quand j'ai attendu que les policiers eux-mêmes. Enfin, peut-être que c'est vrai qu'ils en ont besoin de cette cellule psychologique. Mais est-ce que vraiment plus que la famille.
Donc vous rappelez, vous dites que vous avez déjà appelé, que vous voulez un conseiller.
Oui, mais monsieur... D'accord.
Voilà, c'est Claudette hein, qui témoigne beaucoup, la voisine. Et il faut préciser peut-être qu'elle est réfugiée rwandaise. Elle vient du Rwanda. Et avec Josué, il s'occupe d'une association qui s'appelle Vie Brisée. Et qui, justement, tente de soutenir ceux qui refont leur vie en France après, au terme de l'exil. Alors, on revient à la CIMAD pour essayer de comprendre la situation présente avec Antoine de Courcelles.
Le droit d'asile, maintenant, n'est plus conçu que comme une sorte de gadget, comme un instrument pour se faire valoir sur le plan international. Mais dans la pratique, effectivement, le droit d'asile s'est complètement érodé depuis 15-20 ans et il est accordé aujourd'hui plus qu'à une très très faible minorité de personnes, puisque les chiffres, par exemple, pour l'année 2006, c'est seulement 7,6% d'accords du statut de réfugié.
Alors, 7,8%, est-ce que ça a toujours été 7,8% ou bien est-ce qu'il y a eu une évolution?
Ah non, c'est en baisse constante depuis 15-20 ans. Chaque année, on bat le record... De faible taux d'admission au statut de réfugié. C'était 8,3 en 2005, 7,6 en 2006. Ça sera encore probablement moins en 2007. C'est une évolution constante vers la baisse.
Et il y a 15-20 ans, il était de combien ce de taux?
Au début, fin des années 70, début des années 80, il était de l'ordre de 80-90% d'admission, de décision positive. Il s'est totalement inversé. La courbe s'est totalement versée. Il y a des études qui ont été réalisées. Et qui montre que cette différence de traitement de la demande d'asile, elle n'est pas liée, soi-disant, à une fausse demande d'asile. Les demandeurs d'asile qui arrivaient dans les années 70 ou 80, ils avaient les mêmes types de récits, de persécutions que ceux qui arrivent aujourd'hui. On peut pas dire aujourd'hui que les Tchétchènes, c'était le cas, je crois, de la famille d'Ivan, sont dans une situation de sécurité en Russie. Ça sera pareil pour les Haïtiens, ça sera pareil pour les Sri Lankais. Et c'est aujourd'hui des nationalités qui commencent à être rejetées massivement par l'OFPRA.
Ce que je me demande, c'est si... est-ce qu'il n'y aurait pas une plus difficile lisibilité? C'est-à-dire qu'auparavant, dans les années 70-80, c'était la fuite des dictatures fascistes ou la fuite des régimes communistes. C'était lisible pour un citoyen français, pour des médias français, pour des politiques français, en termes idéologiques, en termes de démocratie. Aujourd'hui, sur les cas que j'ai rencontrés, c'est par exemple un mariage mixte entre un Azéri et une Arménienne, donc qui sont chassés d'Azerbaïdjan à cause du conflit au Karabakh. C'est le cas d'une guerre au Darfour où personne, à part les personnes qui sont extrêmement pointues, comprend quelque chose. Le cas des Yézidis en Géorgie, une religion qui est inconnue en France. Ça rend les choses beaucoup plus illisibles.
Ça, je pense que c'est vrai, effectivement, que les demandes, les conflits que les personnes fuient sont peut-être plus compliqués à analyser. Enfin, dans les années 60-70, le droit d'asile était aussi un petit peu instrumentalisé par rapport à une sorte de concurrence idéologique entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Vous voyez, c'est nous les vrais défenseurs des droits humains, c'est nous qui accueillons les réfugiés. Alors que maintenant le bloc soviétique s'est cassé la gueule, il n'y a plus besoin d'afficher une certaine protection des droits de l'homme, etc. Et éventuellement, ça pourrait peut-être jouer par rapport à ce début d'affrontement entre l'Occident et l'islam. Donc on va peut-être faire des efforts pour accueillir les femmes persécutées dans des pays musulmans. La seule évolution positive, par exemple, du droit d'asile aujourd'hui, c'est sur ces questions-là de persécution liées au mariage forcé, à l'excision, etc. Notamment les demandes de ressortissantes maliennes qui fuient l'excision pour elles ou pour leurs filles.
Encore une fois, des cas qui sont lisibles pour les citoyens français, plus lisibles que des histoires de yézidis en Arménie et ainsi de suite.
Oui, mais par exemple, le Sri Lankais qui fuira la guerre civile entre les Tamouls et l'armée sri lankaise, c'est pas médiatisé, ça passera complètement à l'as. C'est le taux d'admission pour les Sri Lankais est dérisoire, par exemple, alors que c'est un conflit qui est ultra-violent.
On passe de 80 à 90% de dossiers acceptés à la fin des années 70, au début des années 80, à aujourd'hui moins de 10%. Comment on est passé de l'un à l'autre?
Bon, il y a eu un renforcement du discours, je dirais, à la fin des années 80 sur le faux réfugié. Attention, tous ces demandeurs d'asile qui arrivent en France, ils sont pas si honnêtes que ça. C'est pas des gentils opposants politiques, etc. Il faut s'en méfier. C'est souvent des migrants économiques qui cherchent à profiter du droit d'asile pour venir en France. Et donc ça, ce discours, il s'est développé. Et il s'est traduit effectivement par des réglementations, par des lois, par des de plus en plus draconiennes, qui ont rendu aujourd'hui la demande de statut de réfugié, mais d'une complexité hallucinante. Pour quelqu'un qui maîtrise pas le français, qui débarque aujourd'hui en France, faire une demande de statut de réfugié, c'est des démarches administratives et juridiques très 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 compliquées.
Est-ce qu'on est passé de 90% de dossiers acceptés à moins de 10%? Parce que en parallèle, il y a eu, ou il y aurait eu, une explosion du nombre de demandes d'asile en France. Est-ce qu'il y a un raz-de-marée?
La courbe du nombre de demandes d'asile, elle fluctue sans arrêt. Il y a eu beaucoup de demandeurs d'asile, par exemple, à la fin des années 80, au début des années 90, jusqu'à 60 000 en 90, je crois. Puis de nouveau, c'était retombé à 15 000 au milieu des années 90. Ça a augmenté à la fin des années 90, et de nouveau, c'est en baisse. Quand il y a 26 000 demandes d'asile, par exemple, comme en 2006, sur un pays qui compte 60 millions d'habitants, c'est pas énorme, hein,
C'était 26 000.
26 000 en 2006, c'était dans les 40 000 en 2005. Par exemple, il y a je ne sais pas combien de millions de réfugiés irakiens en ce moment, en Jordanie et en Syrie. On ne peut pas comparer 26 000 demandeurs d'asile dans un pays de 60 millions d'habitants et 2 ou 3 millions de réfugiés, je crois, en Syrie et en Jordanie.
Les lois contre la clandestinité, contre les clandestins sont impossibles à appliquer et le gouvernement manipule les peurs et les chiffres à destination d'un certain électorat. C'est ce qu'on peut dire après au terme de ce reportage, et on retrouve Catherine Renaud de RESF et Claudette, la voisine.
Moi, je me souviens d'une chose en plus. Alors, je pense que c'est chez le procureur ou chez le préfet, je ne sais plus, puisque donc moi, je l'ai eu par écho, puisque j'étais sur la route du retour. Un des deux qui aurait dit qu'il fallait quand même reconnaître qu'il était, on va dire entre guillemets, ou je sais pas, bienveillant, je ne sais plus si c'est le terme, hein, mais qu'il avait accordé à Natalia et André de rester à l'hôpital auprès d'Ivan et qu'il aurait pu les mettre en centre de rétention. Ça, c'est des propos qui ont été rapportés.
Alors, moi, j'accompagne les parents à l'hôpital. C'était 20h30. Il y a déjà quelqu'un de l'hôpital qui m'appelle. Ah ben, Claudette, il faut que Nathalie et André viennent à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un de la préfecture qui les attend. Bon. On arrive là, il y avait effectivement un beau monsieur, grand, beau, hein, bien habillé, chic, qui les attendit. Mais il était vraiment représentant de la préfecture, hein.
Il vous a séduit?
Alors on s'assoit et il a donné le récépissé de 6 mois à la famille. Alors quand Natalia a vu ça, et André, ils étaient en colère. Et en plus, c'était bien marqué, n'autorise pas son titulaire à travailler. Ils étaient bien en colère. Ils se disaient, mais c'est pas possible, vous moquez de nous, et ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi? Après 6 mois, si Ivan va bien, ça veut dire que vous revenez chez moi, tapez la porte, cassez la porte et m'embarquez chez moi, ou ça veut dire quoi ça? Et le monsieur qui disait, bah, monsieur et madame, vous ne deviez pas dire ça devant moi. Ça m'a choqué. Je dis, c'est pas vrai. Ils n'ont même pas droit de sortir de leur colère. À la fin, j'ai dit, André, il a raison. Il est le représentant du préfet. Il représente la loi. Il représente la France. Donc, lui, il n'agit pas avec le cœur. Il agit seulement avec la loi. Alors, quand j'ai dit au monsieur qu'il n'agit pas avec le cœur, il était choqué, il dit, mais madame, il faut pas dire ça, vous ne dites pas, il faut pas dire que l'administration n'a pas de cœur. J'ai dit, si l'administration avait le cœur. Après, son cœur a commencé à battre, je dis, je pense que, après elle a récupéré son cœur, ça a commencé à battre un peu, je dis, là, ça, on peut causer. Si vous avez récupéré votre cœur, là, on peut causer. Par contre, je vais demander pourquoi venir un samedi à 21h à l'hôpital pour remettre les récépissés.
Mais tous les sans-papiers, vous savez, c'est comme ça. Quand ils ont le droit à un petit titre de séjour, il y a un émissaire de la préfecture qui vient directement les remettre en main propre. C'est comme ça pour tous les sans-papiers.
Ah bon? C'est comme ça? Alors là,
normalement, ils arrivent avec les croissants.
Là, avec les croissants.
Les policiers avaient oublié les croissants, mais d'habitude, ils viennent avec les croissants.
Ah, d'accord. Peut-être avec une bouteille d'eau, peut-être aussi.
Moi, je suis un ancien sans-papier, mais je n'avais pas vu un policier qui m'amenait un récépissé devant moi et pour me présenter et pour me dire que...
Vous avez été régularisé ou bien on parle encore à un clandestin, là?
Non, mais maintenant, on parle comme un compatriote. Parce que je suis devenu français, j'ai fait la vie de demandeur d'asile politique, j'ai mené la vie des sans-papiers, et j'ai mené la lutte des papiers, une longue lutte jusqu'à ce que la France, comme la famille Dembeski, avait voulu me faire retourner dans mon pays, la République démocratique du Congo, qui était en situation de guerre. Si j'ai maintenant de la famille ici en France, c'est grâce au soutien, c'est grâce à toutes ces personnes que je jette des fleurs, qui soutiennent des sans-papiers et qui font un sacré travail humain pour soutenir les faibles. Et c'est grâce à leurs conseils qu'aujourd'hui aussi, je suis devenu français. J'éprouve beaucoup de bonheur parce que quand j'ai été régularisé, je me réveille à 5h du matin pour aller devant la préfecture attendre qu'on renouvelle mon titre de séjour. Et parfois même, je n'étais pas reçu. Donc je devais retourner les jours prochains pour aller encore me mettre à 5h du matin debout jusqu'à l'ouverture de la préfecture.
Et vous n'aimez pas vous lever tôt?
Ah ben c'est par là, je me suis retrouvé ridicule. Même les gens qui étaient de passage devant la préfecture me trouvaient ridicule. J'ai pris la décision, j'ai dit, le reste de ma vie, jamais je serai étranger dans un pays. Je serai le fils du pays. Partout où je passerai, je serai le fils du pays. Comme je suis devenu ici en France, je suis le fils du pays. Je ne suis plus étranger.
Vous en rigolez là, ça vous fait sourire presque.
Le sourire est revenu parce que maintenant je suis le fils du pays. Hein. Quand je suis en train de parler avec vous, c'est comme un fils du pays. Quand je parle aux policiers, je parle comme un fils du pays qui est en train de revendiquer les droits des fils du pays. Sur le plan du boulot, avec la nationalité française, ça change. Aussitôt que tu te présentes, monsieur, vous pouvez me présenter ton titre de séjour? Je présente la carte d'identité nationale. Ah, là, les regards, ça change.
Vous leur faites des farces, presque, en fait.
Bon, en nous regardant, ils croient que parfois il a ramassé ça, parfois il a volé, mais...
Mais votre photo, elle est bien collée sur la carte.
Mais vous savez, tout ce qu'on nous dit, la photo est très noire. Les noirs se ressemblent. Et nous sommes habitués d'écouter ça et nous sommes habitués aussi à donner des réponses. Parce que tout le monde doit être heureux dans là où il est en train d'habiter.
Fugne che era nana, perché se non ha roba non si buona, si è normale. E questa situazione lo pizza da tangente. E chi sto magna magna che fa chiagnare tanta gente. Allora quanta se sorinja capelle ca cravatta. Se fotte nei miliardi rindessa che in da braghetta. Ma non parla, e non era che chirurga che chiereva tanta sorta si t'aveva fa una purga. Fugne scappa, fugne scappa, fugne che era nana. Perché se non ha roba non si buona, si è normale. E questa situazione lo pizza da tangente. E chi sto magna magna che fa chiagnare tanta gente. Allora quanta se sorinja capelle ca cravatta. Oh,
tout le monde doit être heureux là où il est en train d'habiter. Merci à Josué Mawemba, merci à Claudette Mukamutesi, merci Sekou, Catherine Renaud, Christophe Clavet, Marcel Deckervel, Didier Cotterel, Antoine de Courcelles de la CIMADE. C'était un reportage de François Ruffin. Vous pouvez trouver facilement sur le net le réseau Éducation sans frontières. Et par ailleurs, nous vous signalons que le DAL, Droit au logement, organise un rassemblement ce soir à 18h à Aubervilliers devant le campement situé près de l'école Julio-Curie pour protester contre les expulsions en cours liées avec les matchs de rugby auxquels nous allons assister en jubilant, mais il y a une ombre au tableau. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Vous avez pour vous exprimer, réagir, le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassi. C'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Humbert attend vos messages dans le répondeur de la basse J-Suis, la boîte vocale de la basse J-Suis, au 01 56 40 37 37. Je le répète, il va être 16h sur France Inter. Nous, on se retrouve demain à 15h pour la basse J-Suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servage. Salut.